Et voici le journal, Sarah Guibaudot, bonjour.
Bonjour, vous avez mal dormi, c'est normal, la nuit dernière sera sans doute la plus chaude jamais mesurée en France. Et ce matin, malgré les recommandations, il y avait l'affluence habituelle à la gare Saint-Lazare à Paris, nous le verrons, des voyageurs bien obligés d'aller travailler, sauf à Alstom, petite forêt par exemple, dans le Nord, qui adapte ses horaires. Nous verrons aussi comment la régie Eau de Paris lutte contre l'ouverture des bouches incendies. En pleine canicule, c'est un nouveau rapport scientifique qui tombe à pic pour balayer les arguments des climato-sceptiques. Nous vivons bien une période de réchauffement inédite depuis 2000 ans. Un point complet sur la météo dans une vingtaine de minutes. Sébastien Léas, encore une journée de grosse chaleur.
Oui, c'est même la journée la plus chaude de cette vague de chaleur. 80 départements sont toujours placés en vigilance à la canicule, dont 20 du nord de la France en vigilance rouge. Cet après-midi, on attend des températures records avec des maximales grimpant entre 37 et 43 degrés. Chaleur un peu plus modérée sur la façade ouest et les plages méditerranéennes avec 30 à 37 degrés. Le soleil de plomb sera parfois agrémenté de bancs nuageux, généralement sans conséquence, mais il faut quand même s'attendre à des développements d'averses localement orageuses, principalement en montagne, mais également entre la Normandie, le centre-Val de Loire et les Hauts-de-France en deuxième partie d'après-midi et en soirée.
On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Et plouf, Frankie Zapata, l'homme volant, est tombé à l'eau ce matin au moment de refaire le plein au-dessus de la Manche. 16 ans après la disparition de la petite Estelle Mouzin sur le chemin de l'école, le dossier d'instruction va être dépaysé de Meaux en Seine-et-Marne à Paris, Sophie Parmentier.
Oui, le père de la petite Estelle Mouzin le réclamait depuis 3 ans. L'enquête va être reprise par une juge d'instruction parisienne qui menait d'autres enquêtes impliquant le tueur en série Michel Fourniret. Fourniret qui semble vouloir parler à cette magistrate plus qu'à d'autres et pourrait peut-être faire des révélations sur la disparition de la fillette.
Le chômage poursuit sa baisse, mais lentement. Le Tour de France à l'assaut des Alpes pour départager les prétendants. Nous reviendrons aussi sur la mort du président tunisien ce matin, sur les 12 000 suppressions de postes chez Nissan et du cinéma en plein air devant la pyramide du Louvre.
France Inter.
Le record ne sera validé que ce soir, mais d'après Météo France, il est bien possible que nous sortions de la nuit la plus chaude jamais mesurée en France. Ville par ville, des records sont tombés. 26,8 degrés à Bordeaux, 24,7 à Toulouse, 23,2 à Lille. Il était conseillé d'éviter au maximum les déplacements et de reporter ses voyages en train. Bonjour Simon Cardona.
Bonjour Sarah, bonjour à tous.
Vous rentrez de la gare Saint-Lazare à Paris où les voyageurs n'ont pas pu respecter la consigne et n'étaient pas très en forme ce matin.
Non, des voyageurs qui n'avaient pas beaucoup dormi. Mohamed, par exemple, vit avec sa femme et ses 5 enfants dans 70 mètres carrés.
C'était trop dur, c'était difficile à trouver le sommeil en fait. Parce que hier, j'ai consulté le thermomètre, il faisait 35 degrés à l'intérieur de la maison.
La nuit ?
Oui, la nuit. Là.
Une nuit tout aussi compliquée chez Nuno à Argenteuil. Son appartement est sous les toits, exposé plein sud.
Vers minuit, il faisait 38 degrés. Je me suis réveillé à 5h du matin. Il faut profiter aussi à cause du transport, sinon après c'est un peu la galère.
Nuno a bien fait de partir plus tôt. C'était l'un des conseils de la SNCF, changer ses habitudes. Plus facile à dire qu'à faire, d'après Riyad, cet habitant d'Ivry-sur-Seine pense déjà à la sortie du travail ce soir.
C'est le retour qui est compliqué, avec les métros blindés, les RER blindés, c'est pas évident.
Alors autant faire comme Eva, cette maman a regardé son petit garçon ronfler toute la nuit. Ce matin, elle a donc décidé de plier bagages et aller trouver un peu de fraîcheur et de repos à Deauville. Allez Sarah, je nous prends 2 places dans le prochain train, on reviendra quand la vague de chaleur sera passée.
Avec plaisir, 33 degrés attendus seulement à Deauville, merci Simon Cardona, mais 40,2 degrés enregistrés à Liège en Belgique, c'est un record. En France du Nord à l'Île-de-France, 20 départements sont en alerte rouge. Cette canicule entraîne une hausse des appels aux numéros d'urgence 15 et 18, mais pour le moment, pas d'afflux notable dans les hôpitaux d'après l'Association des médecins urgentistes de France. Pas mal d'appels aussi sur Canicule Info Service de Santé publique France. Un appel par minute en moyenne au 0800 06 66 66. Disponible pour les particuliers, les centres de loisirs ou les organismes qui accueillent du public en cette forte chaleur. Dans le Code du travail, pas d'article sur la canicule, mais l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés. Alors chez Alstom Petite Forêt, qui fabrique du matériel ferroviaire près de Valenciennes, on adapte les horaires, explique Olivier Baril, le directeur de l'usine.
Ça se traduit par des horaires aménagés principalement. Les salariés commencent à 6h du matin et finissent à 14h. Pour les horaires de l'après-midi, ils commencent à 21h30, donc c'est plutôt les horaires de nuit, finissent à 5h30. L'avantage, c'est qu'on n'a personne qui travaille entre 14h et 21h30. Donc on a d'autres dispositifs, évidemment, distribution d'eau, des zones climatisées, des zones de pause. On a la possibilité de prendre des pauses entre deux pauses traditionnelles pour s'hydrater, pour se reposer. Un élément important aussi, c'est qu'on a une grosse communication vis-à-vis de l'ensemble des salariés et des managers pour identifier les premiers coups de chaleur ou des gens qui souffriraient de la chaleur. Il y a aussi effectivement des choses anecdotiques. Par exemple, on s'assure que le matériel informatique qui dégage énormément de chaleur, notamment les certains serveurs, puisse être adapté en termes de fonctionnement. On prévoit aussi que les services de sécurité puissent venir dans les ateliers pour créer de l'aération en ouvrant les trappes de désenfumage, etc. qui sont des petites choses proposées par les salariés qui sont venues renforcer le plan canicule qu'on avait pensé initialement.
Propos recueillis par Raffaella Biri-Vicente de France Bleu Nord. Si on prend un peu de recul maintenant pour s'intéresser au climat de notre planète, voici une nouvelle étude qui a compilé des données de température sur deux millénaires avec des carottes de glace, des anneaux d'arbres ou des sédiments. Les conclusions sont sans appel. Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
La Terre vit sa période la plus chaude depuis 2000 ans.
Et oui, les chercheurs se sont plongés dans 2000 ans d'histoire du climat. Jusqu'au 19e siècle, il y a bien eu une alternance de périodes de réchauffement et de refroidissement. Sans doute lié à l'activité volcanique et solaire. Les Romains ont connu une période inhabituelle de chaud sur plusieurs siècles, l'optimum climatique romain. Et puis au Moyen-Âge, au contraire, c'est le petit âge glaciaire en Europe. Les climato-sceptiques s'en sont servis comme argument pour dire « Vous voyez le réchauffement climatique actuel ? C'est naturel, ça va, ça vient. » Eh bien, cette nouvelle étude cloue encore un peu plus le bec à cette théorie. Les chercheurs sont allés puiser, vous le disiez, dans les archives, 700 indicateurs climatiques, les anneaux d'arbres, les carottes de glace, les sédiments de lacs et le bon vieux thermomètre. Et ils montrent qu'avant le XXe siècle, aucune variation climatique n'a affecté toute la planète au même moment. C'est la grande différence avec aujourd'hui. Le réchauffement climatique observé depuis la révolution industrielle est global. Pour les chercheurs, c'est bien la preuve qu'il est lié à l'activité humaine, à nos émissions de gaz à effet de serre. 98% de la planète vit aujourd'hui sa plus chaude période depuis 2000 ans et ce réchauffement n'a jamais été aussi rapide.
Merci Sandy Dauphin. Et pour se rafraîchir dans les villes, certains ont pris depuis quelques années la mauvaise habitude d'ouvrir les bornes incendies. Il en sort un puissant jet d'eau qui peut être dangereux et compromettre le travail des pompiers. La régie municipale Haute-Paris a trouvé une parade. Elle installe une fontaine sur la bouche incendie. Reportage à Stalingrad de Maureen Suignard. À première vue, c'est une simple fontaine à eau avec plusieurs robinets pour s'hydrater.
Je suis en train de me rafraîchir pour éviter un peu les coups de soleil.
Mais quand on appuie sur l'un des boutons, c'est la douche assurée. Dispositif validé par Aïssatou, 11 ans.
Mais ça m'a un peu éclaboussé, mais ça m'a fait du bien parce qu'il fait très chaud. Oh, c'est bon, là je me suis bien mis sur la tête et tout.
Particularité de cette fontaine, elle est directement reliée à la bouche à incendie, ce qui permet d'empêcher les ouvertures intempestives, selon Emmanuel Markovitch de la régie municipale de l'eau.
La plaque, elle est en dessous, on la voit pas, et ça recouvre la bouche à incendie, donc on n'y a plus du tout accès. C'est effectivement des dispositifs de sécurisation qui sont travaillés avec les pompiers de Paris, afin qu'ils puissent eux ouvrir facilement en cas de besoin.
En cas d'ouverture d'une borne à incendie, ce sont 750 litres d'eau qui s'échappent par minute. Ici, le volume utilisé ne compromet pas le travail des pompiers.
Quand on appuie, vous voyez, ça coule à peu près une trentaine de secondes pour justement économiser de l'eau. Ça n'entraîne pas de baisse de débit pour un usage à côté de l'eau ou une nécessité sur d'autres bouches à incendie pour les pompiers.
25 fontaines de ce type sont réparties à Paris. Une dizaine d'autres seront installées dans les prochains jours. Cette vague de canicule touche toute l'Europe occidentale. On a battu hier des records de température en Allemagne où les autorités sont aussi en alerte, Nathalie Versieux.
L'ensemble du pays est concerné par l'alerte canicule alors que de nombreuses plages, notamment le long des lacs, sont interdites à la baignade, polluées aux algues ou par une fréquentation excessive liée à l'excès de chaleur. La presse regorge de conseils pratiques sur comment dormir, que manger, boire, comment lutter contre la transpiration et quand aérer son logement, tandis que les Verts réclament le droit au télétravail. Les ventes de ventilateurs et de systèmes de climatisation explosent alors que le pays est touché par une vague de chaleur historique pour la seconde année consécutive. Le niveau des nappes phréatiques qui n'ont pu se reconstituer à cause des faibles précipitations de l'hiver inquiète dans le pays. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
C'était le moment sensible pour Frankie Zapata et sa planche volante. Il a décollé ce matin vers 9h de Sangatte pour tenter de traverser la Manche, mais il a chuté au moment de faire le plein au-dessus de son bateau d'assistance. L'homme volant qui avait fait sensation lors du défilé du 14 juillet à Paris a été repêché conscient. Mathieu Darrier.
Frankie Zapata et son équipe savaient bien que c'était le moment compliqué de cette traversée. C'est ce qui faisait que les chances de réussite ne dépassaient pas 60 à 70 %. Un ravitaillement en pleine mer, alors qu'il y avait du vent et de la houle et donc des creux en mer, rendait la plateforme difficile à atteindre. Et après 10 minutes de vol, en s'approchant, un des moteurs du flyboard a touché le bord de la plateforme, ce qui l'a déséquilibré. Frankie Zapata est tombé à l'eau, mais lui et son matériel ont été très vite récupérés par le petit bateau annexe de la baie Languedoc, le remorqueur de haute mer qui était là en sécurité pour les secours. Il faut rappeler que Frankie Zapata n'a pas pu s'entraîner à cet accostage périlleux suite au changement de plan imposé ces derniers jours par la préfecture maritime. Le décollage s'était pourtant parfaitement déroulé. Les nombreux curieux venus de très bonne heure en avaient pris plein les oreilles et les yeux. Et en quelques secondes seulement, le flyboard et son inventeur avaient disparu à 140 km/h au-dessus de la mer.
Mathieu Darrier de France Bleu Nord. C'est l'une des plus tragiques enquêtes non résolues. Un soir de janvier 2003, Estelle Mouzin, 9 ans, n'est pas rentrée de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne. Son père a récemment attaqué l'État pour faute lourde et dénonce la mauvaise gestion de ce dossier. La police estime avoir exploré toutes les pistes disponibles, y compris celle du tueur en série Michel Fourniret. Mais c'est pourtant indirectement à cause de celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes que l'instruction va être dépaysée à Paris. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation ce matin.
Oui, les juges de la Cour de cassation viennent d'accepter que cette longue et difficile enquête autour de la disparition de la petite fille se poursuive désormais à Paris parce qu'à Paris se trouve une juge d'instruction sur laquelle reposent de nouveaux espoirs. Cette juge, Sabine Kéris, dirige en effet une autre enquête criminelle avec d'autres disparitions mettant en cause le tueur en série Michel Fourniret. Et c'est dans le cadre de cette autre affaire que celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes s'est récemment retrouvé dans le bureau de la juge parisienne pour un interrogatoire et même une confrontation avec son ex-épouse Monique Olivier, elle aussi condamnée à perpétuité pour plusieurs meurtres dont elle s'est rendue complice. Il y a quelques mois, face à la juge, Monique Olivier a soudainement dit qu'elle voulait évoquer le dossier Mouzin pour aider les familles de victimes, je la cite. De son côté, Michel Fourniret a déclaré devant la magistrate qu'il y avait quelque chose à creuser dans une formule énigmatique. Déclaration recueillie alors que cette juge n'était pas encore chargée du dossier de la petite Estelle. C'est désormais chose faite. Par souci de favoriser la manifestation de la vérité, dit la procureure générale qui demandait ce dépaysement. Le père de la petite Estelle se dit aujourd'hui satisfait.
Merci Sophie Parmentier. Dans le Tour de France, c'est parti pour trois étapes dantesques dans les Alpes qui vont départager les prétendants au titre. Bonjour Fanny Lechevestrier. Le peloton s'est été lancé à 11h30, ça va grimper dur jusqu'au col du Galibier. Et comme tous les jours, on se demande si Julien Alaphilippe va garder le maillot jaune.
Ah bah, ça n'a jamais été aussi incertain ce maillot jaune qui ne tient qu'à un fil aujourd'hui avec cette étape dantesque. Hein. Trois passages à plus de 2000 mètres d'altitude. Tout d'abord le col de Vars où se situe, où se trouve actuellement une échappée de 34 coureurs dans laquelle figure Romain Bardet. Et puis ensuite il y aura le col d'Izoard, puis le col, vous l'avez dit, du Galibier, tous deux classés hors catégorie. Et on attend, on regarde derrière avec les favoris. Ils sont 6, rendez-vous contre Sarah. 6 coureurs à se tenir en 2 minutes 14 au classement général de Julien Alaphilippe qui est maillot jaune jusqu'à Emmanuel Bourman, l'Allemand, à 2 minutes 14. Donc impossible de dire ce qui va se passer. C'est simple, depuis 1948, on n'avait jamais vécu un tour aussi passionnant avec autant de suspense. Et c'est pour cela aussi que ça va s'annoncer comme une étape dantesque aujourd'hui. Suivra ensuite encore deux autres étapes alpestres. Puis ce sera le grand rendez-vous à Paris aux Champs-Élysées avec bien sûr un public français qui rêvent de voir enfin un successeur à Bernard Hinault, 34 ans après la dernière victoire tricolore en 1985. On n'en est pas encore là. Pourquoi pas Julien Alaphilippe à l'arrivée, mais pourquoi pas aussi Thibaut Pinot qui a fait très très forte impression dans les Pyrénées.
Merci beaucoup Fanny Lechevestrier sur la moto France Inter pilotée par Jean-André Giannichini. Le chômage poursuit sa baisse, moins 0,5% au deuxième trimestre. Cela représente 16 800 personnes selon Pôle emploi qui compte 3,6 millions de demandeurs d'emploi. Sur un an, le chômage recule de 0,9%. Bonne nouvelle, mais ça ne baisse pas assez vite, estime Éric Heyer, économiste à l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques.
C'est une baisse très très lente et progressive du chômage. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde en rythme annuel, c'est que toutes les catégories profitent de cette légère baisse du chômage. C'est-à-dire qu'on soit jeune, moins jeune, que l'on soit homme, femme, qu'on soit un chômeur un peu de longue durée ou pas. Enfin, quasiment tout le monde profite de cette baisse, sauf les chômeurs qui ont plus de 3 ans d'ancienneté au chômage. Ça reste le point noir. Sinon, c'est une baisse qui est en lien avec les créations d'emplois, donc c'est une bonne baisse, c'est-à-dire que cette baisse est liée au fait que l'économie française crée des emplois. Alors c'est là où c'est un peu décevant ce chiffre, c'est que compte tenu des rythmes de création d'emplois, on est en rythme annuel aux alentours de 220 000 créations d'emplois, on aurait pu s'attendre à une baisse un peu plus significative du chômage. C'est certain que c'est pas avec ces baisses progressives du chômage que l'on va y arriver, parce que ça nécessiterait aux alentours d'une dizaine d'années de croissance économique sans incident. L'objectif du gouvernement est d'arriver à 7% de chômage d'ici la fin du quinquennat, donc il va falloir que l'on accélère cette baisse du chômage si on veut arriver aux objectifs du gouvernement.
Éric Heyer répondait à Laurent Kramer. À Londres, Boris Johnson affirme ce midi que la préparation d'une sortie sans accord de l'Union européenne est la priorité. Pour le nouveau Premier ministre britannique, les termes de l'accord de divorce sont inacceptables. Le Royaume-Uni ne nommera pas de nouveau commissaire européen. En Tunisie, le président Essebsi est mort ce matin, âgé de 92 ans. Il avait été à nouveau hospitalisé hier après un grave malaise déjà le mois dernier, Nadine Epstein.
Appelé aussi par ses initiales, BCE était revenu aux affaires en février 2011, au lendemain de la chute et de la fuite de Ben Ali. Président du gouvernement provisoire, Beji Caïd Essebsi organise en 8 mois les premières élections libres et démocratiques. Mais il perd, battu par les islamistes d'Ennahda. Au scrutin suivant, en 2014, le dirigeant politique, à la tête d'une vaste coalition Nida Tounes, est élu à la magistrature suprême. Le locataire de Carthage, doté d'aisance orale et du sens de la formule, aimait répéter « Nous voulons un État du 21e siècle, un état de progrès. Ce qui nous sépare de ces gens-là, en parlant des islamistes d'Ennahda, ce sont 14 siècles. En 2015, après 3 attentats qui ont tué 60 personnes au musée du Bardo à Tunis, dans un hôtel à Sousse et contre un bus de la sécurité présidentielle, le chef de l'État Essebsi proclame l'état d'urgence dans toute la Tunisie. À l'actif de l'action de BCE, l'abrogation de l'interdiction du mariage d'une Tunisienne avec un non-musulman et l'adoption de lois contre les violences faites aux femmes. En revanche, la loi sur l'égalité dans l'héritage est toujours en chantier.
La mort du président tunisien ouvre une période d'incertitude sur la vacance du pouvoir à l'approche des élections. Le rappeur américain A$AP Rocky doit être jugé pour violence. Ainsi en a décidé ce matin la justice en Suède. Son arrestation le mois dernier après une bagarre de rue à Stockholm avait mobilisé ses proches et fans. Et jusqu'à Donald Trump qui était prêt à se porter garant, comme il l'a fait savoir au premier ministre suédois. Nissan a annoncé ce matin la suppression de 12 500 emplois dans le monde. Ce n'est pas la conséquence des déboires de l'ancien PDG Carlos Ghosn, mais d'un retournement du marché automobile. Les profits du constructeur japonais s'effondrent. À Tokyo, Yann Rousseau.
Au total, Nissan va se séparer sur 4 ans de 12 500 personnes. Cela représente à peu près 10% de l'ensemble de ses effectifs. À titre de comparaison, quand Carlos Ghosn avait été envoyé par Renault pour sauver Nissan de la faillite, c'était en 1999, il avait lui supprimé 14% de l'ensemble des emplois. Aujourd'hui, Hiroto Sakawa, le PDG Nissan, n'a pas voulu donner le nom des 14 sites de production qui sont concernés par ces fermetures de lignes d'assemblage, mais il a quand même lâché l'exemple de l'Indonésie et de l'Espagne. On sait qu'il y aura aussi des coupes au Japon et en Amérique du Sud. La France, elle, n'est pas concernée parce qu'elle n'a pas d'usine Nissan. Globalement, Nissan veut baisser ses coûts et ses capacités de production. Il ne cherche plus à vendre toujours plus de voitures, comme l'avait voulu Carlos Ghosn, mais il cherche à gagner de l'argent sur chaque modèle qu'il vend, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Cette révolution va prendre du temps, et il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle sera menée par Hiroto Sakawa. L'entourage du PDG parle de plus en plus de son ras-le-bol, et la direction de Nissan ne cache pas qu'elle lui cherche un successeur.
Yann Rousseau. C'était une gueule de cinéma. Rutger Hauer est mort à 75 ans. Il avait été rendu célèbre par le rôle du méchant humanoïde dans Blade Runner.
I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time, like tears in rain.
Les larmes dans la pluie, l'acteur néerlandais aussi familier des films de Paul Verhoeven avait connu une fin de carrière plus confidentielle, mais il pouvait marquer un film par sa présence dans le dernier Audiard, Les Frères Sisters, il ne dit d'ailleurs pas un mot. Du ciné en plein air, devant la pyramide du Louvre à Paris, près de 3000 spectateurs dans la cour carrée, et hier soir, un film de circonstance, Alexis de Meyer, Da Vinci Code.
14 ans après y avoir été tourné, le film de Ron Howard revient au Louvre par la grande porte. À la nuit tombée sur un écran de 25 mètres, les spectateurs voient apparaître Tom Hanks, Audrey Tautou ou encore Jean Reno.
Un homme important m'a contacté et a eu mon ordre. Il m'a dit qu'il avait confessé les meurtriers.
Parmi les 2800 spectateurs présents hier soir, beaucoup de fans évidemment du best-seller de Dan Brown. C'est le cas de Mina, venue des Yvelines pour l'occasion.
Quand j'ai lu le livre il y a 10 ans, je ne me serais jamais imaginé le voir au musée du Louvre. C'est assez dingue comme idée et ça va, on a eu de la chance parce qu'on a eu un petit peu d'air frais vers la fin et c'est une expérience vraiment inoubliable.
La projection de Da Vinci Code s'inscrit dans le cadre du festival Cinéma Paradiso, un événement organisé par le groupe MK2. Elisha Karmitz en est le directeur général.
C'est un événement de cinéma qui célèbre le 7e art, mais qui est un événement joyeux, festif, populaire. Il y a un avant, donc on peut venir avec ses amis, boire un verre, s'amuser, danser, on organise des cours de danse. Ça permet de profiter de ce lieu qui est majestueux. Ce qui fait sens pour cet événement, c'est d'être un événement gratuit, c'est de pouvoir rassembler un maximum de gens et c'est de pouvoir transmettre la passion du cinéma.
Après, entre autres, la reine Margot, Indiana Jones et Astérix, place ce soir au voyage de Chihiro de Miyazaki.
Vous avez jusqu'à demain soir pour profiter du cinéma en plein air dans la grande cour du Louvre à Paris. Allez voir aussi sur franceinter.fr au programme demain quand Harry rencontre Sally.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Et avec Sébastien Léas de Météo France, le pic de la canicule reste à passer, mais après, les températures vont chuter.
Chaleur record sur le pays cet après-midi avec de nombreuses villes qui atteignent des températures jamais relevées. 20 départements entre la Champagne, le Loiret, la Haute-Normandie et les Hauts-de-France en passant par le bassin parisien restent en vigilance rouge à la canicule et 60 autres départements sont en vigilance orange. À Paris, il fait jusqu'à 42 degrés cet après-midi. On attend 41 degrés au Mans et à Nancy, 40 degrés à Lille, Mulhouse et Clermont-Ferrand et 39 degrés à Dijon, Caen, Agen et Carpentras alors qu'il fera 35 degrés à Bordeaux et Marseille et 25 degrés à Brest. Cet après-midi, le soleil domine encore largement. Mais le ciel est parfois un peu plus variable sur la moitié ouest. Ces nuages qui apparaissent peuvent localement donner des averses avant la fin de journée jusqu'en soirée entre la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes jusqu'en Bourgogne et à la Touraine. Par endroits, ces averses tournent même à l'orage et de la grêle est possible. Sur les Alpes, les Pyrénées et le nord du Massif central, des averses localement orageuses sont également attendues cet après-midi. Et en soirée, une dégradation orageuse va également gagner le sud-ouest.